Merci d'être là. Merci d'être venu à cette heure quasiment de déjeuner pour ce débat donc sur les tests ADN, sur ses implications, bien sûr, éthiques, médicales, philosophiques, que nous allons débattre avec trois personnalités, trois personnes tout à fait expertes en la matière. Donc, il y a Catherine Bourguin, qui est directrice de recherche à l'INSERM, qui est chef d'un laboratoire important, donc elle vous expliquera peut-être exactement ce qu'elle fait dans son laboratoire. Et à côté d'elle, donc, nous avons Guillaume Vogt, qui est également donc rattaché à l'INSERM, mais sur d'autres domaines, et qui a un point de vue un peu différent, justement, de Catherine sur les tests ADN. Et puis, à côté, à ma gauche, il y a Guillaume de Morand, qui, lui, n'est pas un spécialiste de la génétique directement, mais un spécialiste de la généalogie, notamment, qui est journaliste. Il est journaliste freelance pour de nombreux médias, autrefois pour Paris Match, aujourd'hui pour Marianne, pour VSD, etc. Il n'écrit pas uniquement sur la généalogie, mais il les suit de très près, ces questions-là. Et donc, les tests ADN, effectivement, dont nous allons parler, il y a un champ d'activité important, puisque ces tests, on les utilise pour la police, pour la recherche du criminel. On les utilise, bien sûr, aussi dans les recherches de paternité, ou des questions de gémellité aussi, je crois, entre frères et sœurs. On les utilise, bien sûr, dans le domaine médical, et c'est là où se posent peut-être les problèmes les plus importants. Et on les utilise aussi en termes d'ethnologie, plus généralement, de migration et de prescription, bien sûr. Donc, avant d'entrer, il faut savoir que en France, donc, ces tests ADN sont pratiqués, mais sont pratiqués dans le domaine professionnel, puisque je pense que vous en préparez ou vous en suivez, mais qui ne sont pas disponibles pour le grand public comme ils le sont dans les autres pays. Et je crois, vous m'avez dit que la France était quasiment l'un des très rares pays développés, entre guillemets, à interdire purement et simplement ces tests ADN avec la Pologne, c'est ça ? Avec
oui, c'est ça. La France dispose d'une législation qui interdit au grand public de pratiquer des tests ADN. Et avec la Pologne, c'est un des rares pays à avoir une législation spécifique sur ce sujet.
Alors peut-être, Catherine, vous pouvez commencer à nous expliquer d'abord ce qu'est un test ADN, éventuellement, et éventuellement donner une réponse, savoir pourquoi ils sont interdits, enfin un petit peu d'historique de la chose.
Avec plaisir. Alors, donc, l'ADN, hein, on l'a toutes et toutes dans chacune de nos cellules. On l'a hérité pour moitié de notre père, pour moitié de notre mère. Et le test ADN consiste à regarder précisément quel est votre ADN à vous, en quoi il est... On va regarder pas vraiment tout l'ADN, enfin, on peut le regarder, mais ce qu'on va surtout regarder, c'est certains endroits de l'ADN qui sont connus pour être souvent différents d'une personne à l'autre et qui vont pouvoir nous donner des informations qui peuvent être soit des informations de liens biologiques, par exemple, est-ce que vous êtes le père ou le fils ou la fille ou la mère de telle ou telle personne. Ça peut être des informations d'ordre médical. Est-ce que vous êtes, par exemple, porteur d'une mutation qui est responsable d'une maladie génétique connue pour être due largement à une modification de l'ADN. Et ça peut être aussi une information sur vous-même. Vous avez parlé de police pour savoir si l'ADN qu'on a retrouvé, par exemple, sur une scène de crime est le vôtre ou pas. Et enfin, ça peut être une information utilisée pour tenter d'avoir des informations sur vos origines, les populations auxquelles vous êtes génétiquement les plus proches. Donc, en fait, il y a plein d'usages différents qui sont en évolution perpétuelle parce que notre ADN ne change pas, mais ce qui change, c'est les connaissances et la compréhension que l'on a sur ce qu'on peut dire de cette information. Et puis aussi des données qu'on a accumulées dans des bases au niveau national, international, qui permettent de faire des comparaisons entre l'ADN d'une personne et ses bases de données pour essayer de tirer des informations sur ces types de domaines.
Vous pouvez peut-être préciser donc que l'ADN, c'est 46 chromosomes, c'est ça, et 21 000 gènes à peu près, qui sont maintenant séquencés d'une façon extrêmement rapide, automatisée, ce qui n'était pas encore le cas il y a 20 ans, non ?
Alors oui, alors là, dans ce dont on parle ici, c'est même plutôt 3 milliards d'unités de base, avec, on regarde entre 1, 2, 3 millions seulement sur les 3 milliards d'endroits qui sont intéressants parce qu'ils sont susceptibles d'être différents d'une personne à l'autre. Et effectivement, la première fois qu'on a réussi à regarder toute la séquence d'un ADN, c'était au début des années 2000. Il y avait eu des consortiums internationaux, des milliards de dollars investis pour faire un génome, alors qu'aujourd'hui, on peut faire l'équivalent de ce travail dans un laboratoire pour 500 euros ou 300 euros. Enfin, ça dépend de toute une série de détails techniques. Mais peut-être tu veux préciser, non ? Alors, sur la question de l'histoire, voilà. Pourquoi, en France, on a une législation particulière ? D'abord, c'est une législation qui est mise en place après-guerre, hein, au fil du temps, et qui est donc très nourrie de questionnements éthiques sur qu'est-ce que ça veut dire, la biologie, de traiter les individus selon leur appartenance biologiquement déterminée. Hein, c'est post-Seconde Guerre mondiale, encore une fois. Et donc, ça a nourri le souci porté par les politiques, hein, parce que c'est les lois qui ont été votées, de tous bords d'ailleurs, d'être très précautionneux sur ces technologies en pensant aux conséquences collectives de ces usages individuels. Hein, et c'est ce qui a primé et qui a fait que, dès le départ, il a été jugé important que tout test génétique soit réalisé par un professionnel, que ça soit un biologiste qui travaille pour un laboratoire de la police. Donc c'est le juge qui doit ordonner un test de paternité en France. Mais le biologiste qui fait le test, il est encadré par des pratiques. Il a un diplôme particulier encadré par des pratiques. C'est la même chose en médecine. Et c'est aussi... enfin voilà, c'est pour les deux grands. Et puis bien sûr, les chercheurs aussi. Les chercheurs qui doivent avoir des diplômes pour pouvoir être dans des laboratoires pour pouvoir faire ces trucs-là. Et donc l'idée, c'est vraiment de se dire, c'est un savoir qui peut avoir des effets collectifs. Contrôlons ces effets collectifs en s'assurant que la façon dont ces tests sont faits ont des bénéfices qui sont suffisamment identifiés et clarifiés pour qu'on justifie de faire ces tests. Voilà. Donc ça, c'est le cadre légal, hein, je simplifie à l'extrême, évidemment, hein, qui encadre la façon dont a été pensé le recours aux tests génétiques en France.
Alors, nous allons passer la parole à Guillaume Demorand pour aborder cette, pour approcher un peu de l'utilisation des tests à des fins, disons, individuelles et personnel, en passant par la généalogie. Donc, j'imagine que justement cette aventure du séquençage du génome a été un progrès énorme pour les généalogistes, une révolution, une sorte de révolution.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle tous ces tests-là dépassent largement la loi. Et la loi, elle est complètement dépassée par les usages. Puisque depuis que cette loi a été votée et même redébattue plus récemment dans le cadre de la révision de la loi bioéthique, personne n'a jamais pris en compte les usages qui sont récréatifs. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les usages professionnels. Ceux qui sont faits dans le cadre de la recherche médicale sont évidemment éminemment à respecter. Ceux qui sont réalisés dans le cadre de la recherche judiciaire, la résolution de crimes, sont parfaitement utiles et c'est tout à fait normal qu'ils soient encadrés. Idem pour la recherche scientifique au sens large, hein, qui permet d'expliquer énormément de choses. Et il y a tout. Je pense que c'est un gisement énorme de découvertes scientifiques qui nous attend. Mais parallèlement à tout ça, est né un usage que les Américains appellent un usage récréatif de l'ADN. Donc l'usage récréatif, c'est prendre quelque chose qui est très très sérieux, qu'il ne faut pas prendre justement à la légère, mais on s'en sert quand même pour des choses qui sont beaucoup moins importantes que les trois choses que je viens de citer. En généalogie, ça sert à quoi ? Faire un test ADN, ça sert d'une première manière, et c'est ce qui est présenté en toute priorité par les vendeurs de tests et les vendeurs de kits, ça sert à trouver votre espèce de filiation géographique. Vous recevez un joli schéma dans une carte en disant vous avez X% d'origine berbère, 32% anglo-saxonne, celtique ou ce que vous voulez, ibérique. Et bon, c'est très joli, c'est une carte, c'est compréhensible, facile. Hein, on voit, il y a des petites flèches. On peut même, si vous poussez un petit peu plus loin, vous feuilletez un peu plus loin les cartes, vous avez aussi les grands trajets de migration de vos ancêtres. C'est très intéressant de voir comment la Terre s'est peuplée et à quelle grande population vous êtes susceptible de vous rattacher. C'est très intéressant, mais pour moi, ce n'est pas vraiment de la généalogie. C'est une information intéressante, mais pas plus. En revanche, ce qui est vraiment très intéressant, c'est la mise en relation. C'est-à-dire que quand vous faites un test ADN comme celui-ci, vous avez le choix, évidemment, c'est à vous que ça appartient, vous avez le choix de publier vos données, et là, je mets toutes les précautions nécessaires, il ne faut pas faire n'importe quoi et publier ces données génétiques n'importe où, mais vous avez le choix de publier vos données sur des bases internationales dans lesquelles vous allez retrouver d'autres profils, vous allez joindre votre profil à des millions d'autres profils génétiques. Et les automatismes et les programmes logiciels de la base vont comparer vos données génétiques avec ceux des autres personnes et établir des liens de parenté probables. Alors, quand on a une petite base, comme c'est le cas des bases françaises, moi, j'ai fait mon test, je reçois des alertes, par exemple, un portail qui s'appelle Généanet. Je reçois toujours des alertes avec des pourcentages ridicules. La personne est parente avec moi à 0,03%. Donc ça veut dire que si on a un aïeul commun, pour le chercher en généalogie, il va falloir passer par pas mal de détours et remonter je ne sais pas combien de générations pour trouver des liens de parenté. C'est pas très intéressant. En revanche, quand vous avez une énorme base de données, effectivement, vous avez la possibilité de trouver des parents beaucoup plus proches parce que il y a plus de monde sur la base et vous trouvez des parents beaucoup plus proches. Donc ça, c'est un intérêt généalogique. Encore une fois, on s'amuse avec ça. Après, il y a d'autres gens qui s'amusent un petit peu moins. Je pense aux enfants orphelins, abandonnés, qui retrouvent des parents biologiques ou en tout cas génétiques. Moi, j'ai traité à plusieurs reprises dans des articles dans la presse de cas un peu exceptionnels où on avait... alors je l'aime bien parce que je le connais bien maintenant, David Zapata, qui est un enfant issu de la guerre du Vietnam, adopté en 1968 dans un contexte de guerre. Il est adopté par il est rapatrié en France par une association française. Il est adopté dans une famille parfaitement aimante, etc. Mais il arrive à la cinquantaine et il se demande, mais qui sont mes parents ? Moi, je suis métisse. Je ressemble à la fois à un occidental, mais aussi à un asiatique. Je suis métisse. Je viens du Vietnam. Il est quand même probable que si je cherche mon père, je vais quand même plus le retrouver dans les GI américains qui occupaient le pays à l'époque que dans une autre population. Il fait un test ADN. Et évidemment, il trouve ces grandes bases de données américaines, il trouve relativement facilement un cousin qui, de fil en aiguille, l'amène à son propre père. Donc on a des découvertes de ce genre-là. Donc cet homme a retrouvé son père biologique. Chance, parce qu'après, c'est... Parfois, il y a la dimension psychologique. On peut tomber sur quelqu'un qui n'a pas du tout envie de faire ce genre de découverte avec vous, qui avait complètement oublié ou qui n'a pas du tout envie de rencontrer un fils biologique. Mais c'est parfois aussi des très belles découvertes. Et là, c'était le cas dans ce cas évoqué.
Mais alors, est-ce que la qualité des données, en termes pour ce qui concerne effectivement les questions de paternité, de généalogie, est-ce que la qualité des données dépend effectivement du nombre de données déjà rassemblées finalement, il faut que...
Alors, les données sont parfaites, elles sont scientifiquement rigoureuses, oui. C'est toujours les mêmes. En revanche, c'est les informations qu'on en tire qui peuvent être différentes. C'est pas la même chose que de rechercher un lien de parenté que de rechercher la traçabilité d'une mutation pour savoir si elle s'adapte à telle ou telle maladie, parce que ça, c'est de la recherche médicale, c'est autre chose.
Oui, non, pour être précis, Guillaume. Pour les données géographiques, pour savoir si vous êtes du Moyen-Orient, nord-africain, asiatique, etc. Globalement, les bases qu'ont des millions d'individus donnent une approximation qui est correcte pour la géographie. Cela fonctionne. L'autre chose, c'est que pour les affiliations, etc., comme l'ADN, à chaque fois, il se sépare en deux. Vous avez 50% de votre papa, de votre maman. Votre génome se divise en deux à chaque fois. Donc, ça fait 50, 25, 12, 6, 3, 1. Et puis ensuite, il ne reste plus grand-chose. Et au bout d'une dizaine de générations, on ne peut plus remonter à qui était son ancêtre. Mais donc, dans ce cas-là, il faut très peu d'informations pour savoir si on est relié à une dizaine de générations, à X ou Y. Par contre, les puces qu'on utilise pour faire ça, c'est des tests que vous faites à 50 euros, à 100 euros, à bas coût, font des erreurs. Alors, ce n'est pas important quand on compare une population de 5000 à 5000, s'il y a quelques petites erreurs dans les puces. Mais par contre, vous, au niveau de l'individu, vous êtes sur cette puce-là, et on va vous dire que vous n'avez pas cette mutation qui donne la pathologie. Alors que c'est faux, on a fait une erreur. Les erreurs, elles sont multiples. C'est parce qu'en fait, c'est un système de couleurs. On vous dit de ne pas manger de pommes avant, une demi-heure avant. On ne vous dit pas forcément de ne pas embrasser votre partenaire. Les échantillons arrivent par des colis à la poste. Et comme on les multiplie par million, bah, vous avez un nuage de points et vous êtes bien obligé de dire que ça, c'est un T ou ça, c'est un A, c'est-à-dire pour déterminer les lettres du génome. Et il y a des erreurs. C'est pour ça que dans le cadre médical, on n'utilise pas ces variations au niveau de l'individu, on fait du séquençage qui coûte beaucoup plus cher. Vous avez par exemple une société, donc toutes les sociétés dans le monde qui ont commencé dans les années 2000, 2010, etc., c'était vraiment sur des petites puces où on prend à peu près 600 000 ou 1 million de points de votre génome pour essayer de déterminer des choses. C'était des puces scientifiques, mais en population, pas au niveau de l'individu. Ils ont détourné ça pour faire des tests et donner de la qualité pour les zones géographiques, pour les affiliations, mais totalement fausse pour la médecine. Et le point, c'est que les coûts vont drastiquement diminuer. En 90, on a fait un génome mondialement pour 2-3 milliards. En l'an 2000, on a fait, avec une société privée, Celera, pour 200-300 millions d'euros en 3 ans. Le premier génome a pris 13 ans. Le deuxième, 2000, a pris 2-3 ans. Et maintenant, aujourd'hui, on arrive à faire un génome entier en une journée. D'accord, pour un coût, effectivement, de 500, de 1000 euros, etc. Donc, la qualité de ces tests est bonne d'un point de vue récréatif et généalogique, mais n'est absolument pas correcte pour les analyses médicales. Si jamais on doit faire quelque chose médicalement, il faut regarder la séquence et ça doit être vu par un généticien et des personnes qui ont les compétences de savoir quelle va être la pathologie.
Catherine, vous vouliez réagir à
Oui, pour aller dans le sens... Non, pas l'aspect médical, justement. En fait, en France, on l'a dit, un test de paternité, par exemple, doit être ordonné par un juge. Il est fait dans un laboratoire, je l'ai dit, qui a des procédures qui sont extrêmement contrôlées, vérifiées, par des biologistes qui sont diplômés et dont les compétences sont régulièrement remises en question. Pourquoi ? Parce que quand on fait un test de paternité, par exemple, ou alors quand il y a un crime et qu'on a un ADN et qu'on cherche à savoir si le suspect potentiel qu'on a identifié correspond à l'ADN qu'on a retrouvé sur la scène de crime, il ne faut pas se tromper. Et en même temps, ce qu'on recherche, on ne recherche pas du tout l'ADN hein, dans ce type d'enquête. On va regarder une vingtaine de points sur l'ADN. Donc on n'est pas du tout dans l'exhaustivité. C'est des techniques qui sont rodées depuis le début des années 90, même si elles ont un peu évolué. Et pourtant, il y a un travail, un souci de, pour reprendre un petit peu ce que disait Guillaume, de suivi des échantillons, parce que une des erreurs les plus fréquentes, c'est d'échanger les échantillons. Ça arrive tout le temps dans les laboratoires, parce qu'il y a quand même des humains. Donc il y a en fait tout un travail autour qui est compliqué et qui requiert, pour pouvoir fonder des décisions aussi importantes que considérer qu'il y a un élément supplémentaire pour envoyer quelqu'un en prison ou au contraire imposer une paternité autant que faire se peut d'ailleurs parce que bon voilà c'est jamais le seul élément le test génétique dans un test de paternité dans une décision de justice hein, ça toujours contribue à hein, c'est remis en contexte mais en tout cas il y a un souci de proportionner le contrôle qualité à l'enjeu de la décision qui est associée au test. Voilà. Et dans la dimension récréative...
J'imagine qu'il y a des protocoles quand même assez sévères.
Très sévères, et qui sont très contrôlés. C'est ça que je veux dire. On est très, très loin de quelque chose de récréatif, parce que l'usage qui est pensé est un usage qui est censé être associé à des droits. Hein si on est montré... Si le juge dit que vous êtes le fils d'eux, et ben vous pouvez prétendre à... Hein, voilà. Donc c'est très important de dire que la question de la qualité, ce n'est pas une question hors sol comme ça. Il n'y a pas des bons tests et des mauvais tests. Ça dépend des conditions de réalisation qui dépendent de l'enjeu.
Le fichier auquel Catherine fait référence, c'est le fichier de la police, le FNAEG, qui a été créé vis-à-vis de Guy Georges, qui est toujours incarcéré actuellement. Et donc on a commencé ça pour les violeurs, les multirécidivistes, et en fait on a commencé par 10 marqueurs, on est passé à 20 je crois, je ne sais pas à quel moment, mais c'est des marqueurs qui n'ont aucune information médicale ou physique, c'est uniquement des petites répétitions qui se gardent très très bien de génération en génération. Et ça, c'était pour conserver, pour avoir, si jamais on perdait le fichier ou si le fichier était utilisé, qu'on puisse pas faire des choses sur les ADN de ces personnes. Parce que aujourd'hui, dans le FNAEG, vous avez à peu près 3 millions de personnes qui ont été intégrées.
6 millions maintenant. Les derniers chiffres, je les ai regardés. 6 millions.
D'accord, moi j'étais en 2018, 3 millions.
Eh ben oui, mais ça a explosé depuis.
D'accord. Et donc, pourquoi,
on met n'importe qui dedans.
Pourquoi ça a explosé? Voilà, pourquoi ça a explosé? Alors, n'importe qui, vous avez quand même des personnes qui vont être rentrées chez vous.
6 millions de Français?
6 alors, millions oui. d'habitants du territoire national.
2018, 3 millions, donc apparemment...
Ah si, c'est les derniers chiffres qui sont donnés par le FNAEG lui-même. Hein, c'est pas...
Et il faut savoir que dans ce fichier, il y a par exemple tous les gens qui ont manifesté et qui se sont fait arrêter devant un McDonald's parce qu'ils vous ont vu
voilà,
le démonter.
Voilà, ça c'était depuis 2006.
Ils se font arrêter et il y a une obligation légale de donner votre ADN. Si vous refusez, vous pouvez même être emprisonné. Donc pour moi, ce fichier, c'est à la fois on veut protéger les gens, et en plus, c'est une bonne chose, mais ça va trop loin. Quoi.
Alors le problème de ce fichier, un exemple pour les cold cases, pour les affaires criminelles, c'est que quand vous avez une empreinte partielle, déjà, vous ne pouvez pas le mettre dans le fichier, parce que ça ne rime à rien de mettre que 10 marqueurs, parce que sur 3 millions de personnes, on va avoir des centaines de personnes qui ont 10 marqueurs. Donc on ne peut pas mettre d'empreinte partielle. Et quand sur un lieu de crime, on trouve une empreinte partielle, et l'empreinte partielle, c'est quoi? C'est au lieu d'avoir les 20 marqueurs, on va en avoir que 7. À ce moment-là, les policiers ont des milliers de candidats qui n'ont aucune chance d'être reliés génétiquement, parce que ce n'est pas possible, d'accord? Ça ne veut pas dire que sur les 1000, il y en a un qui fonctionne. Et ça, pourquoi? Parce que justement, on s'est limité à 20 marqueurs. On aurait pris la puce récréative qu'à 600 000 points, il faut savoir que sur ces sites Internet, à partir du moment où vous avez 0,7% de match, là, vous pouvez chercher, pour moi, 9 fois sur 10, vous allez tomber sur un membre de votre famille. Et donc, c'est dommage parce que dans les affaires criminelles, on se refuse cette efficacité, alors qu'on a un fichier donc apparemment de 6 millions de personnes. Donc autant dire que la carte criminelle française
ou
manifestation française est grande. Et on est obligé aujourd'hui pour les cold cases de faire des collaborations à l'étranger pour donner l'ADN d'un délinquant français au FBI pour qu'il aille comparer dans les biobanques qui l'autorisent encore.
Alors ça, c'est ces biobanques ont été. Mais c'est vraiment un sujet intéressant que je voudrais aborder. Je te laisse finir.
Mais ces biobanques ont été utilisées avant par les policiers ou par les détectives privés, c'est-à-dire qu'ils avaient l'ADN du meurtrier ou du violeur et ils les mettaient sur ces biobanques. Et on a appris que beaucoup d'affaires ont été résolues. Pourquoi? Parce que le meurtrier n'est pas forcément sur ces biobanques, mais par contre, c'est un cousin, petit cousin. Donc la personne voit que c'est de la famille qu'il identifie et il fait son enquête. Où est-ce qu'il habite? C'est qui les frères? C'est qui les sœurs? Et il regarde géographiquement et c'est comme ça qu'on a résolu des choses. Voilà. Ce qui est dommage, c'est qu'en France, on a un super fichier, mais inutilisable. Parce qu'il n'y a pas assez de marqueurs. Mais
je ne suis pas du tout d'accord avec toi. C'est un fichier qui est extrêmement utilisé. Je ne le défends pas. Moi, j'ai été témoin, cité par la défense, de militants pris dans des manifestations qui refusaient de donner leur ADN pour rentrer dans le fichier. Hein. Donc moi, j'ai beaucoup de questionnements sur ce fichier. De fait, c'est un fichier extrêmement utilisé. Les juges prescrivent extrêmement souvent des analyses génétiques dans les affaires. Il y a toute une série d'affaires qui sont étudiées par la génétique. Et le plus souvent, quand ça ne marche pas, ce n'est pas du tout parce qu'on n'a pas suffisamment d'informations sur l'ADN. C'est parce que l'ADN, c'est compliqué. Souvent, il n'y a pas un ADN, il y en a deux, trois, quatre. Et quand on a des mélanges d'ADN, et moi, je suis encore allée il n'y a pas très longtemps dans une cour de justice à cause de ça, pour témoigner sur le fait que l'analyse qui était faite était fausse, et elle n'était pas fausse parce qu'on n'avait pas assez de marqueurs, elle était fausse parce que l'échantillon qu'on avait était très compliqué à analyser. On aurait eu 20 millions de marqueurs, on aurait eu la même difficulté. Donc en fait, c'est une vision, moi je considère que ce que tu décris, Guillaume, est une vision strictement technique de toute une série de pratiques qui sont toujours social, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va échantillonner, quelles sont les personnes qu'on va prendre comme suspectes et qu'on va contrôler, comment on va utiliser le fichier. Tout ça, ça compte énormément dans le fait de y arriver ou de ne pas y arriver. Et pour revenir à la façon dont les Américains, le FBI, utilisent les bases de données récréatives avec beaucoup dit, mais moi, je n'aime pas cette technique, cette terminologie, je ne l'utilise jamais, parce que je considère que c'est jamais récréatif. 100%, il y a trop d'usages possibles. La preuve, le FBI, sans demander leur avis aux gens, est rentré dans ces bases de données.
C'est exact au début, mais maintenant, ce n'est plus le cas.
Ça dépend des boîtes. C'est sur le opt-in. Dépend des boîtes. Et donc, les gens se retrouvent potentiellement des cibles d'enquêtes policières. Et encore une fois, si on reprend les enquêtes les plus... dont on a parlé le plus, où effectivement la génétique a aidé, c'est jamais la génétique toute seule qui a permis, in fine, de retrouver le coupable. Et ça veut dire qu'il y a eu des moyens complètement démentiels pour utiliser la génétique et l'utiliser de façon à trouver un coupable. Quand on connaît l'état de la justice en France, et j'en discutais récemment avec des juges, qui disent que dès qu'on a trop de matchs, c'est-à-dire dès qu'il y a trop d'individus qui correspondent, et ça arrive tout le temps dans les enquêtes, c'était le cas d'ailleurs dans les enquêtes...
Vous disiez à l'instant que ce fichier était quand même utile, non ?
Il est utile, mais il faut pas penser qu'il est utile en toutes circonstances. Mmh. Il a des utilités qui sont bien décrites et qui sont finalement celles qui requièrent techniquement les choses les plus simples, en fait.
Attendez, voilà. Le mélange d'ADN, évidemment... Quand vous avez un mélange d'ADN, c'est pas utile. Ce que je disais, c'est que avec 20 marqueurs, comme je vous ai expliqué, vous avez 50% de votre ADN qui va à chaque fois se diviser en deux d'une génération à une autre. Donc, ce fichier FNAEG a permis, dans le passé, d'identifier le papa ou d'un enfant criminel. Il y a des affaires criminelles. On a retrouvé des criminels comme ça. Le seul problème, c'est que dès qu'il n'y a plus que 5 marqueurs, parce qu'on est à la troisième génération, on ne peut pas remonter. C'est ce que je trouve dommage dans ce fichier, puisque avec 3 millions d'individus, quand vous avez une empreinte, vous pourriez avoir mathématiquement un membre de la famille éloigné dans ce fichier pour remonter au délinquant. Comme on n'a que 20 marqueurs, on ne fait pas ça. Et c'est pour ça qu'on passe par des biobanques qui ont 600 000 marqueurs, qui permettent d'avoir sur les 600 000, 0,7% de ces 600 000 points, et qui permet de dire, ça, c'est le petit-petit cousin, le violeur ici, a un petit-petit cousin aux USA. Et ça, ça va permettre de faire l'enquête et de remonter. Voilà.
On va laisser parler Guillaume de Morant sur ces questions.
C'est un sujet que j'ai traité plein de fois aux États-Unis et qui est passionnant. C'est la manière, on porte un jugement ou pas là-dessus, hein, mais c'est la manière dont les généalogistes américains ont inventé une nouvelle façon de résoudre des cold cases. Actuellement, aux États-Unis, vous avez, depuis 2018, vous avez plus de 200 cold cases, donc des affaires criminelles non résolues, dont certaines dataient des années 60, voire fin des années 50, qui ont été résolues, c'est-à-dire des gens, des corps qui ont été retrouvés. On n'avait jamais trouvé les auteurs, mais il y avait simplement une trace ADN dans des objets qui entouraient le corps ou sur le corps lui-même. Et on a fait des tests ADN. On a identifié un profil ADN, un profil génétique très précis, celui de la victime. Et quand il y avait un deuxième profil génétique, soit mélangé, parce qu'évidemment, si on parle de viol, forcément, c'est mélangé. Mais encore une fois, moi, les interrogations que j'ai eues auprès des enquêteurs de la gendarmerie nationale et de la police nationale, ils m'ont tous dit que, bon, techniquement, c'est quand même de plus en plus fiable si deux ADN sont mélangés, on arrive de mieux en mieux, je ne dis pas que c'est parfait, mais on arrive de mieux en mieux à les séparer. Enfin, en tout cas, aux États-Unis, les généalogistes, on parle de généalogie, ont eu l'idée de demander au FBI ou de demander aux autorités policières et judiciaires du pays, de certains États, ça a commencé par la Californie, de prendre pour tester un ADN inconnu qui a été retrouvé sur une scène de crime et qui n'est pas celui de la victime. Ou qui peut être celui de la victime si on cherche à identifier la victime. Cet ADN, on le met dans une base de données de généalogistes, de gens comme moi, apparemment vous n'êtes pas trop généalogiste, mais de gens comme moi qui ont fait des tests de généalogie pour retrouver leurs ancêtres et pour retrouver des cousins. On regarde s'il y a des concordances, c'est-à-dire des proximités, des mutations en commun. Et comme vous le savez, on peut, en cas de mutation commune, on peut établir un degré de parenté qui est assez précis. C'est-à-dire que si telle ou telle mutation sont présentes à tel ou tel endroit de l'ADN, on peut en déduire que ces deux personnes ont un lien de parenté. Et donc l'ADN inconnu du criminel a été comparé à cette grande base de données et les généalogistes ont trouvé qu'il y avait, par exemple, deux cousines germaines de ce tueur ou cousines issues de germaines qui étaient présentes dans cette base. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait de la généalogie. Ils ont contacté les deux personnes qui n'ont rien à voir avec le crime, évidemment. Et ils ont fait leur généalogie, ils ont remonté jusqu'au niveau où était susceptible de se trouver l'ancêtre commun, c'est-à-dire le grand-père ou l'arrière-grand-père. Et ensuite, ils ont refait de la généalogie descendante, et c'est un travail de police, hein, pour retrouver tous les descendants de ce couple qui présente le lien de parenté avec le criminel. Et dans la liste des descendants qu'on peut ensuite circonscrire avec un certain nombre de filtres, par exemple, vous avez 200 personnes, on sait que c'est un violeur, bon, c'est pas une femme, puisqu'on a trouvé une trace de sperme. On sait ensuite que le violeur, il vivait en Californie dans les années 80. Eh ben, on peut enlever tous les gens qui étaient morts avant 1980 ou tous ceux qui étaient dans cette liste de descendants. Et finalement, on arrive à une liste très, très courte de, à peu près, enfin, ça dépend des cas, hein, mais parfois, c'est une seule personne, parfois, c'est trois ou quatre. Et là, c'est un travail de police. Les policiers américains s'ennuient pas avec trop de précautions. Hein, dans le cas le plus connu, qui était le tueur du Golden Gate, ou du Golden State, je me trompe toujours. Donc en Californie, il y avait un tueur qui avait écumé tous les États-Unis, enfin toute la Californie, et qui avait tué au moins 7 personnes. C'était un tueur en série. Et bien, il a pu être arrêté uniquement parce que des cousins à lui avaient déposé leur ADN sur une base de données de généalogie, donc de généalogie récréative. Il a été arrêté, condamné, il est en prison pour des années et des années. Et ce n'est pas le seul cas, je vous dis, il y en a à peu près 200 depuis 2018, ce qui me laisse à penser que si un tel système existait en France, et encore une fois, moi, je suis pas pour un système ouvert, je suis pour un système contrôlé, mais en tout cas, si un tel système existait en France, des affaires comme celle du petit Grégory ou d'autres affaires criminelles épouvantables seraient résolues depuis longtemps.
Catherine, vous vouliez réagir à...
Oui, je voulais dire au moins deux choses. J'ai énormément de choses à dire, mais il faut que la parole circule. La première, c'est que ça veut dire, je reprends sur ce qui vient d'être dit, que en fait, quand quelqu'un donne son ADN, achète un service génétique, en fait, il embarque avec lui toute sa famille. Hein, donc, il faut bien avoir conscience que quand vous donnez votre ADN, enfin, vous le donnez pas, en l'occurrence, vous payez pour un service, vous n'avez pas demandé votre avis, son avis à votre frère avec qui vous êtes fâché depuis 10 ans. Hein, et bien, lui, il y est aussi. Voilà. Et ses enfants aussi. Voilà. Donc, c'est quand même une décision individuelle dont les conséquences collectives peuvent être parfois heureuses, mais peuvent être aussi pas du tout heureuses et pas du tout partagées. Donc, la question de savoir à qui appartient mon ADN, évidemment... Alors, d'abord, il ne m'appartient pas, parce que ce n'est pas une logique patrimoniale. Mais en tout cas, je le partage avec beaucoup de proches. Et voilà. Et donc, ça permet éventuellement de régler des affaires. Mais ça veut dire aussi que quand on constitue un fichier... par exemple, si on reprend ces enquêtes-là, quand il était question, potentiellement, quand on fait des recherches pour savoir si c'est pas exactement vous qui êtes dans le fichier, mais si ça serait pas un de vos proches, hein, souvent, il y a beaucoup de signaux qui sortent, il y a beaucoup de proches potentiels qui sont pas dans le fichier, mais qui sont concernés et qui deviennent des suspects. Hein, donc ça veut dire aussi qu'on transforme beaucoup de gens en suspects potentiels. Moi, je me souviens d'une collègue juge d'instruction qui me raconte une histoire absolument sordide d'un enfant trouvé tué dans une poubelle dans un lieu très jeune, voilà, mort-né pratiquement. Donc on fait le prélèvement sur l'enfant et on recherche le père. Évidemment, il n'est pas dans le fichier, mais on a des apparentés éloignés. C'était avant que ça se restreigne l'usage du FNAEG, parce qu'aujourd'hui, Le fichier des empreintes génétiques, quand on fait des recherches familiales, on peut rechercher que des proches apparentés, c'est-à-dire du premier degré. Voilà. Et à l'époque, ce n'était pas le cas. On pouvait chercher largement. Ça, c'est une loi plus récente qui a contrôlé. Et ce qu'elle me raconte, c'est qu'elle se retrouve, elle, juge d'instruction en Seine-Saint-Denis, avec les moyens que vous connaissez peut-être des juges d'instruction générale, en Seine-Saint-Denis en particulier, à avoir plus de 100 personnes suspects potentiels par la génétique, qui sont en fait des suspects sur une base qui n'est pas liée à leur comportement, aux raisons classiques de suspecter quelqu'un dans la police. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que ça transforme la pratique policière, ça transforme qu'est-ce que ça veut dire être suspect, qu'est-ce que ça veut dire être mis en cause, etc. Donc en fait, c'est des transformations sociales qui sont profondes.
Oui, mais alors ça, c'est à cause de la mauvaise qualité de notre fichier, parce qu'on n'a que 20 marqueurs. Si jamais on avait les 600 000 marqueurs, on verrait qu'aucun ne correspond et vous auriez pas 100. Effectivement, elle a raison. À chaque fois qu'il y a une affaire criminelle et qu'on a une empreinte partielle, et l'empreinte partielle, ça peut être juste due parce que c'est le papa ou c'est l'enfant, et donc c'est 50%, d'accord? Et dans ce cas-là, vous avez effectivement des centaines de possibilités qui sont toutes fausses. Alors qu'on sait que dans un fichier, quand on compare l'ADN dans les biobanques, qu'on en 10 millions, vous allez voir tout de suite... Si vous avez des matchs au-dessus de 0,7%, ça appartient à la famille. Si c'est un match de 50%, c'est l'enfant ou c'est le père. Et si c'est un match inférieur, c'est ce qu'il a expliqué. Et donc, c'est à cause de la paucité de ce fichier en France qu'on a ces problèmes-là.
Mais parce l'alternative, c'est que si on a les
l'alternative,
elle est extrêmement discutable, parce que ça veut dire que si on met toutes les variations génétiques, si on met toutes les variations génétiques dans le fichier de police, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les informations concernant votre santé qui sont potentiellement dans l'ADN, hein, et encore une fois, même si elles n'y sont pas, on peut considérer que vous rentrez dans telle catégorie, hein, parce que par exemple, il y a des gens qui ont des mutations génétiques, ils sont censés être malades, en fait, ils ne sont pas malades. On ne comprend pas pourquoi. C'est comme ça, c'est la vie, c'est comme ça. Hein ? Et or, on peut tout à fait considérer sur la base génétique qu'ils sont malades. Donc on peut aussi faire des catégories. On peut mettre les gens dans des cases sur des critères biologiques. Hein ? Et plus on a d'informations, plus on peut faire des cases facilement. Hein ? Et, alors que ces cases, elles sont souvent très incertaines. Ça, c'est la première chose. Et maintenant, je me rappelle de ce que je voulais dire. Sur la question de la généalogie. Ça, vous dites on n'est pas généalogiste. Bah, moi, j'ai une passion pour la généalogie. J'ai même fait ma thèse sur l'utilisation de la génétique dans des grandes populations où on a des grandes généalogies. J'étais devenue spécialiste du traitement des données de généalogie. C'est génétique, je veux dire. Hein, voilà. Donc, j'ai une passion pour ça. Mais de quoi on parle? C'est-à-dire quand on recrée sa généalogie personnelle, on remonte dans les ancêtres, on n'est pas en train de vérifier que c'est une parenté biologique. Génétique. Et bien souvent, tout le monde sait bien que dans les familles, il y a des histoires. Le père, ce n'était pas le père au sens spermatozoïde, mais c'était le père qui a élevé, qui a fait que, etc. Et donc, en fait, l'histoire qu'on remonte n'est pas la même quand on la remonte sur l'histoire des individus et quand on la remonte sur la question biologique. Donc, en fait, ça transforme et ça impose une vision biologique des liens familiaux qui ne sont pas, et là je reviens à quelque chose d'important, qui ne sont pas la norme de définition des filiations en France. Hein ? En France, quand un père va déclarer à la naissance d'un enfant qu'il est le père de l'enfant et que cette déclaration n'est pas contestée, il est le père. C'est donc bien une notion de parenté qui est...
Mais c'est là où on voit que la technique et le droit s'opposent de temps en temps. Enfin, les nouvelles technologies peuvent remettre en cause le...
Remettre en cause ou alors venir. Le droit, ce n'est pas juste des juristes qui décident, c'est des lois qui sont votées. Donc c'est quand même des décisions collectives, alors qui peuvent être datées et évoluées. Je suis bien d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au moment où on fait ces lois, c'est pour des raisons qui sont des raisons complexes, des équilibres complexes. Et la technologie seule n'est pas une raison pour transformer ces lois. Il peut y avoir plein de raisons pour transformer ces lois, mais se dire qu'il faut faire un changement légal, législatif, tiré par la technologie parce que la technologie nous imposerait ces changements, moi, je trouve que c'est une vision non seulement simpliste, mais qui est une source de problèmes qu'on n'envisage pas quand on pense que au miracle de la technologie.
La question...
Je voulais juste répondre sur votre affirmation, oui. Comme quoi ce n'est pas de la généalogie, c'est de la biologie. Mais c'est justement, la génétique est en train de changer. Le rapport des généalogistes par rapport à, enfin, le rapport des généalogistes à leur identité, parce qu'on parle quand même de l'identité ici, on est là pour ça. Et ça change justement. On a des perspectives nouvelles qui sont offertes. Vous disiez, dans chaque famille, il y a toujours un accident. Le grand-père n'a pas vraiment été le grand-père, etc., etc. Et ben moi, j'ai plein de demandes de gens qui me disent, vous savez, moi, ma grand-mère, bon, elle m'a toujours dit que, voilà, etc., etc. Et ben on peut vérifier. Grâce à ça, grâce à des bases de données comme ça, on peut déjà vérifier si c'est vrai ou c'est faux. Moi, j'ai eu l'occasion de vérifier que ma petite cousine, c'était bien ma petite cousine, par la génétique et donc par la biologie. Notre grand-père, mon grand-père et son arrière-grand-père, bah, finalement, c'était bien la même personne puisque la génétique le disait. Bon, c'est plutôt amusant. C'est encore une fois, moi, je trouve ça léger comme sujet. Et c'est une vraie demande qui arrive, qui est nouvelle, justement parce que la génétique est là. Quand il n'y avait pas de génétique, on ne se posait pas la question de la biologie. On n'avait aucun moyen de la vérifier. Maintenant, on a le moyen de la vérifier, ou en tout cas de la commenter, de l'analyser et d'en tirer quelque chose. Et beaucoup de gens en tirent des choses, hein, de ce genre d'analyse.
Je voudrais maintenant en venir à la loi elle-même et justement pourquoi en France est-ce interdit et qu'est-ce que vous proposez les uns et les autres lors de vos interventions, on a compris un peu votre point de vue, mais vous pouvez peut-être le préciser chacun. C'est-à-dire que est-ce qu'effectivement le fait que la France soit un peu isolée dans cette, est-ce que c'est pas une ligne Maginot qui finalement n'est pas très efficace, puisque vous me disiez avant le débat qu'il y avait peut-être 100 000 personnes ou plus, ou 150 000 personnes en France qui ont fait faire des tests récréatifs, entre guillemets.
On parle jusqu'à un million. Hein,
jusqu'à un million, peut-être. Peut-être qu'il y en a dans cette salle. Et donc, est-ce qu'on peut en venir, oui, à la loi et savoir qu'est-ce que vous pourriez proposer, ou en tout cas, quel est votre point de vue, Guillaume, peut-être d'abord.
Alors, effectivement, le point, c'est qu'on a légiféré avant de savoir ce que c'était un gène. Le 16.1 du Code civil explique qu'il y a une non-patrimonialité du corps humain. Donc, évidemment, qu'on ne peut pas vendre et acheter des organes. Et à l'intérieur du corps, il y a quoi? Il y a l'ADN. Et donc, c'est de là, ensuite, qu'on a dit, article 16.10, qu'on pouvait étudier les caractéristiques génétiques uniquement, en tout cas pour ce paragraphe, dans le cadre de la recherche ou dans le cadre du soin, après qu'on ait dûment expliqué la finalité. C'est-à-dire, on va regarder des gènes sur le cancer parce que vous avez un cancer, ou alors on va étudier votre génome pour savoir pourquoi vous avez les yeux bleus. Voilà. Une fois qu'on explique la finalité, on a le droit, dans notre loi, de faire ça. Donc c'est pour ça qu'en France, c'est interdit, et on ne peut pas soi-même faire un test génétique. On est à minima obligé d'avoir un médecin qui va nous prescrire une ordonnance, et dans ce cas-là, c'est légal. Mais je dis vraiment à minima. Voilà. Donc, moi, ce que je propose, c'est-à-dire, pour moi, il ne faut pas changer la loi. Si on change la loi, il va y avoir, c'est notre différent, il va y avoir toutes ces sociétés nord-américaines qui vont faire, comme a fait par erreur MyHeritage, elle a fait en 2018 une campagne de publicité sur BFM TV CNews, en disant, regardez, c'est génial, vous pouvez retrouver des membres de votre famille, vous avez les zones géographiques, et cette pub est passée plein de fois. Le seul truc, c'est que l'ARPP, je crois, l'agence de... de régulation qui aurait crié au crime si jamais c'était une pub pour acheter un rein, elle s'est pas rendu compte que c'était interdit. Donc elle est quand même passée plein de fois, et c'est pour ça qu'en 2018, à Noël, il y a eu plein de petits paquets qui sont arrivés. Donc si jamais on change la loi, il y aura toutes ces publicités, et je vous promets que le site de 23andMe, par exemple, a vraiment évolué, et maintenant il est beau, il est ergonomique, et donc vous allez plutôt vouloir trouver des proches dans des grandes biobanques. Dans ce cas-là, vous allez directement donner votre ADN aux entreprises nord-américaines. Et ça, je trouve ça dommage. C'est pour ça que, pour moi, en ne changeant pas la loi et en permettant juste dans le cadre de la recherche d'avoir votre ADN et de vous fournir des informations si vous en consentez dans le cadre du soin ou d'affiliation, etc., dans une biobanque française, gratuite, publique et protégée, ça laissera le temps, 5 ans, 10 ans, comme le plan France Génomique 2025 dans le cadre du soin, à être ergonomique et beau et utile, comme mon espace santé qui ne fonctionne pas très bien en ce moment parce que il y a plein de choses qui manquent, mais on va y arriver. Donc ça laissera le temps aux Français de proposer mieux, parce que ce qui est génial en France, c'est qu'on est le seul pays au monde où on peut soigner gratuitement. Aux USA, il y a 200 000 personnes par an qui font banqueroute pour des frais médicaux, qui vendent leur maison. En France, globalement, quand vous avez une pathologie, vous êtes accompagné et on vous rembourse. Et c'est pour ça que si jamais on vous dit qu'il n'y a pas de pathologie, vous n'allez pas aller chercher ailleurs. Il y a un point de confiance. Aux USA, on est heureux de dépenser de l'argent pour une maladie imaginaire. Mais en France, il n'y a pas d'intérêt. Donc, sur 100 personnes, il n'y en a qu'une ou trois à qui on va dire, génétiquement, on peut voir quelque chose. Les 97 autres, il n'y a rien, il faut juste bien vivre, on n'a pas suffisamment de connaissances en génétique. Voilà ce que je propose, garder la loi, mais demander à la CNIL d'essayer d'avoir de pas dire que comme le législateur n'a pas légiféré là, c'est qu'il préférait que ça ne se fasse pas. C'est un petit peu de réfléchir à l'inverse, si ce n'est pas légiféré là, c'est qu'on peut peut-être élargir le champ des finalités. Voilà.
Guillaume Lemorand, vous avez un point de vue, je crois, plus libéral.
Alors, moi, je suis pas un vrai libéral, parce que je suis très attaché aux grandes missions régaliennes de l'État qui doit mener, etc. Mais en revanche, je trouve que dans ce domaine-là, il faut protéger le consommateur. Il faut le protéger, et comment on peut le protéger? En lui donnant un cadre précis dans lequel il pourrait faire ce genre de test et y associer un certain nombre de mesures de protection conservatoire. Je vous donne un exemple. Si moi, j'obtiens mon test ADN, ça veut dire que je vais recevoir ou avoir la possibilité de télécharger un fichier de type Excel qui fait à peu près 600 000 lignes. Vous pouvez l'ouvrir, vous n'allez rien comprendre, il n'y a que des variations génétiques à TCG et compagnie. En revanche, ce fichier-là, si vous le mettez sur une base de données, eh bien, que vous l'associez à un certain nombre d'informations qui vous concernent, c'est évident qu'on va mettre votre nom, votre prénom, votre date de naissance et tous les éléments qui font votre état civil en face de ces données génétiques. Moi, je propose qu'on puisse séparer très nettement l'état civil de la personne qui dépose les données génétiques, ce qui fait qu'on a un profil génétique qui est, d'une certaine manière, un peu plus anonymisé. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est, de toutes les façons, on est en Europe, on est en France, et il y a un règlement européen qui s'applique, qui s'appelle le règlement pour la protection, le règlement général pour la protection des données, le RGPD. Et celui-ci, ce règlement, il y a un certain nombre de choses qui s'appliquent, déjà d'ailleurs, éventuellement, à des clients de sociétés américaines qui auraient acheté donc des tests aux États-Unis, c'est-à-dire dans les dispositions, il y a je dois pouvoir retirer mon ADN sur simple demande, et quand vous lisez, après moi, on est bien obligé de faire confiance à un moment, mais si vous êtes abonné par exemple à Ancestry ou FTDNA, vous avez clairement dans les rubriques, je veux supprimer mon ADN de votre base de données, et ils le font. Enfin, je veux dire, ils n'ont pas intérêt à le garder. Et les sanctions du RGPD, on dit toujours, oui, les Américains s'en foutent. Ben non, ils s'en foutent pas, parce que c'est grave, les sanctions qui peuvent aller contre une entreprise américaine qui enfreindrait les règlements européens, c'est quand même grave. Il y a des amendes qui sont considérables, il y a des interdictions d'exercer dans d'autres activités, etc. Donc, ça fait partie aussi d'un domaine où il y a un minimum de protection. Moi, je demande à ce qu'on rajoute des protections supplémentaires et que ces tests soient autorisés de cette manière-là, avec une loi spécifique qui viendrait bien encadrer les dispositions et qui ouvrirait cette possibilité, comme ça avait d'ailleurs avait été longuement débattu lors de la révision de la loi sur la bioéthique récemment. Il y a eu de longs débats là-dessus. Les députés et sénateurs ne sont pas tombés d'accord et ont préféré garder une version très restrictive de l'utilisation de la génétique. Mais c'est quelque chose qui, de toutes les façons, à mon sens, va évoluer. On est devant un raz-de-marée si on propose un truc qui est inexploitable et inutilisable en France. Que vont faire les clients et ceux qui sont intéressés? Ils vont continuer à aller déposer leurs données génétiques sur les bases de données américaines, et un point, c'est tout. Moi, j'ai aucune illusion là-dessus.
Catherine Bourguin, votre...
Alors moi, évidemment, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui vient d'être dit. Moi, je crois que toute l'histoire de la génétique humaine, qui remonte au moins au milieu du 19e siècle, montre combien c'est un savoir compliqué qui a été utilisé par les eugénistes à la fin du 19e siècle, dans un souci tout à fait à l'époque bienveillant d'améliorer le pool de la population. Il faut remettre l'histoire en contexte. Et qu'en fait, toute l'histoire du développement de la génétique par des gens qui commencent à comprendre ce qu'on peut faire de ces savoirs montre à quel point c'est un savoir compliqué à gérer. Parce qu'il y a des dimensions individuelles, mais il y a des dimensions collectives extrêmement importantes. On peut faire des catégories, trier les gens, les discriminer avec la génétique bien plus facilement qu'on ne peut donner des informations sur comment les soigner au mieux. Voilà. Et c'est les raisons qui ont historiquement procédé en France aux réglementations qui sont en place. Et je crois, moi, aujourd'hui, qu'on est très loin d'avoir fait transformer la balance entre les risques collectifs et les bénéfices individuels, et que si on voulait mettre en place des nouveaux dispositifs qui permettraient d'avoir la même rigueur qu'on a aujourd'hui en génétique médicale, et les mêmes coûts, du coup, parce que qui dit rigueur, qualité, encadrement, suivi du RGPD, parce que je suis désolée, mais les données génétiques sont considérées par le RGPD comme des données identifiantes, même si on ne fait pas le lien avec votre état civil. Donc, de toute façon, c'est pour ça qu'on l'utilise dans les enquêtes. Donc, en fait, c'est un tel investissement financier social pour contrôler ça que si on voulait faire ça pour de la, entre guillemets, puisque je l'ai dit, pour moi, c'est contestable, de la généalogie récréative, qui va prendre en charge ça? Dans l'état actuel des finances publiques, on a déjà du mal à financer l'assurance maladie. Je ne vois pas comment on va financer ces coûts supplémentaires. Et donc, je pense qu'il faut savoir remettre la technologie à sa place et réfléchir collectivement, comme c'est le cas aujourd'hui, aux usages qui peuvent être collectivement contrôlés, mesurés, etc. Et si des gens ne sont pas contents, mais c'est un débat collectif, parce que c'est aussi des règles collectives avec toutes les dimensions, et pas seulement la dimension de « me, myself and I », comme disent les Américains, « moi, moi-même et moi ». OK, vous avez envie de faire des choses, mais on est dans une société de droit où la technologie est régulée aussi pour ces enjeux collectifs.
Guillaume Vogt.
Bon, c'est pas pour discuter de la vie, mais pour répondre sur la question du coût. En France, vous avez donc des protocoles de recherche qui sont gratuits pour le participant. Il va donner son génome pour savoir si le cancer est génétique, si une pathologie est génétique. Et c'est un génome entier aujourd'hui, pour faire simple, qu'on regarde. Le point, c'est que quand on fait de la génétique, quand on fait ces protocoles de recherche, il nous faut de toute façon un génome pour répondre à une question. Ce que je dis, c'est qu'un génome répond à toutes les autres questions de génétique dans ces protocoles de recherche. Donc, au lieu qu'une personne fasse une cohorte de 200 personnes sur le cancer du sein, une autre cohorte de 200 personnes sur la prostate, et puis 200, et puis 200, et puis 200, vous avez donc des millions de génomes dans le cadre de la recherche. Ce que je dis, c'est que les coûts sont déjà dépensés pour ces questions de recherche fortes, intéressantes. Ce que je dis, c'est qu'une autre personne qui aimerait faire une autre recherche, peut-être moins importante, mais qui va identifier un des 20 000 gènes dont on ne connaît pas la fonction, c'est important, mais il n'aurait pas l'argent. À ce moment-là, il lui suffirait, si on fait une finalité en vous disant qu'on va étudier votre génome associé à un questionnaire, on vous pose des questions sur le cancer, un autre chercheur pourra vous poser des questions sur la couleur de vos yeux, la couleur de vos cheveux. Et ça, c'est zéro coût de séquençage. Vous avez juste aller faire une autre recherche. Donc, ce que je propose, c'est vraiment, dans un cadre de recherche, au lieu de jeter ce génome qui est fait des fois à l'hôpital sans que vous le sachiez, parce que depuis la loi Jardé, on a le droit maintenant, avec les méthodologies de référence, de faire des séquences génétiques, de faire des exomes sur des fonds de tubes.
Des exomes, sans vous pouvez...
De faire les régions codantes, les plus faciles... si on peut dire facile, les plus faciles à expliquer, de faire des régions codantes sans que vous en soyez informé avec les méthodologies de référence. D'accord ? Et ça, c'est quand même dommage. C'est de l'argent de l'État qu'on dépense qui ne sera pas... dont vous ne bénéficierez pas. Donc c'est pour ça que pour moi, il y a quelque chose à travailler là-dessus et on n'a pas besoin de changer la loi. Il faut juste permettre ce genre de protocole. Au lieu de faire un protocole avec cette finalité-là, c'est faire un protocole en génétique avec des finalités où vous allez avoir le choix de répondre ou pas à la question.
Plusieurs recherches peuvent être faites sur le même sur la même base de données. Voilà. Et quels sont les pour conclure parce que nous approchons de la fin de notre débat, quels sont les opposants, enfin ou quelles sont les forces qui s'opposent à une modification même légère de la loi actuelle en fait, Catherine Bourguin.
En fait, à chaque fois qu'il y a des discussions au Parlement sur les questions de bioéthique, des positions politiques sont prises hein, sur le rapport à la technologie, sur la question des fichiers. Parce que, par exemple, c'est le fichier dont on parlait tout à l'heure des empreintes génétiques, donc national automatisé d'empreintes génétiques, fait l'objet d'énormément de discussions et de contestations. Parce que l'idée d'avoir un fichier de 6 millions de personnes en France, n'est pas, avec les données génétiques, n'est pas considéré comme normal par tout le monde. Et du reste, quand on regarde la proportion de gens qui sont dans le fichier policier en Allemagne, nous, on est à près de 9%. Les Allemands, ils sont à 1%. Hein, donc, ils ont un rapport au fichage génétique qui est très différent. Donc, on sent à quel point c'est une question collective. Parce que quand on parle de fichier, tout de suite, on collectivise la question. Alors que quand on parle de tests individuels, on a l'impression que c'est une question individuelle. Mais derrière, il y a des fichiers qui sont constitués. Et les usages de ces fichiers sont aussi des questions collectives. Voilà. Donc, en fait, c'est les débats politiques qui se posent sur qu'est-ce que ça veut dire faire ces grandes bases de données génétiques, pour quels usages, avec quels intérêts, etc. Et donc, c'est des équilibres politiques qui se votent, d'ailleurs, qui sont souvent assez transversaux au groupe politique, parce que la question de comment se posent ces questions est quand même assez compliquée. Et entre la dimension technique et la dimension conséquence sociétale, tout le monde n'est pas forcément d'accord. On a bien vu ici, on connaît tous chacun un petit bout du problème et on n'a pas le même point de vue. Je ne sais pas si on voterait différemment pour autant. Enfin, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on sent que c'est quelque chose qui est transversal et qu'il y a des forces politiques aujourd'hui en France qui sont globalement contre ces usages-là.
Guillaume Demorand. Sur les généalogistes ne sont pas...
Je suis tout à fait d'accord avec Catherine quand elle dit que ce n'est pas une question de politique politicienne. C'est une question personnelle. C'est une question où, dans chaque parti politique, vous allez avoir des prises de position extrêmement différentes sur le sujet. Chez les généalogistes...
Ils ne sont pas assez nombreux pour... avoir un poids politique, finalement.
Non, les généalogistes sont des gens très tranquilles, très calmes. mais qui font plein de recherches, qui font avancer la recherche historique, qui font malgré eux avancer la recherche génétique, parce qu'ils passent des tests illégaux, certes, mais finalement, ils déposent leurs données génétiques sur des bases de données, et pourquoi pas un jour, ça pourrait être exploité médicalement, scientifiquement, dans le cadre d'une recherche. Je sais qu'on avait déjà eu ce débat avec Guillaume dans une autre enceinte de débat, et il me disait que c'était pas vraiment très intéressant de...
5 voilà, millions de dollars pour collaborer sur 5 millions d'ADN de 23andMe. Donc GSK, c'est un laboratoire pharmaceutique, et donc il a fait une collaboration.
Et les millions que vous citez, c'est pour quoi
On n'a pas le droit d'acheter l'ADN au niveau mondial, donc on va dire que c'était une collaboration scientifique pour étudier les caractéristiques génétiques de 5 millions de participants.
Donc ça a été payé par
le laboratoire GSK a payé. Il faut savoir que ces sociétés-là pèsent des milliards, 23andMe. On a perdu les comptes parce qu'on ne sait pas, mais c'est entre 10 et 20 millions. Elle est au-dessus de milliards.
Il y a des recensements du nombre de gens qui ont passé des tests génétiques comme cela, et on les estime à... ça dépend des opérateurs. Le plus gros, apparemment, ce serait plutôt FTDNA, qui aurait une vingtaine de millions de profils. Et ensuite, MyHeritage arrive assez proche. MyHeritage, c'est une boîte qui est d'origine israélienne, qui est établie partout dans le monde et qui s'est développée énormément en France pour une raison très simple, c'est que c'est un des rares portails de généalogie qui est international, qui est parfaitement traduit en français, et ça depuis des années. Donc, quand un portail traduit en français propose d'acheter des tests génétiques et que c'est tout expliqué en français, et bien, qu'est-ce qui se passe? Les gens ne savent pas que c'est interdit, et ils achètent des tests génétiques avec une explication en français et... ils le font sans savoir vraiment que c'est interdit. Jamais MyHeritage va vous dire que c'est interdit, évidemment. C'est un point .fr, oui. Voilà. Oui.
Et ce qui est intéressant pour revenir sur les Israéliens, c'est que en Israël, alors que on peut dire le poids des fichiers a été conséquent pour eux, ils font de l'optimisation génétique. Ils proposent aux familles, quand elles vont avoir un enfant, de regarder si dans leur communauté il y a certaines variations qui créent des pathologies. Et au lieu juste de prendre un enfant qui sera pas malade parce que c'est des maladies récessives, il faut avoir les deux allèles, ils essayent justement d'éliminer ces allèles-là. Donc c'est vraiment, voilà, c'est des débats qui doivent être faits, c'est propre aux nations, propre à l'histoire, mais je trouve que
c'est assez proche de l'eugénisme.
Il y a des jolies choses. Oui, mais alors, l'eugénisme a une définition sale parce que ça a été sali. Oui. On a créé ce terme avant de savoir ce que c'était un gène aussi. Il faut savoir que si vous voulez éliminer les maladies, c'est ce que font les Israéliens. C'est-à-dire, il faut éliminer dans la population générale les variations. Que vous êtes bien portant, mais vous avez les variations qui vont créer la maladie. C'est pas en éliminant les gens qui sont malades.
Non, bien d'accord. Sûr.
Donc, c'est pour ça, on peut trouver un autre terme ou pas. Alors, on parle d'optimisation génétique, mais c'est ce que font les Israéliens. Et je trouve ça pas mal du tout. Il y en a d'autres qui préfèrent pas du tout. Et c'est un débat. Voilà, c'est...
Catherine Bourguin, un mot de conclusion, parce que nous allons arrêter.
Non, mais alors là, on ouvre un nouveau débat, on peut encore y passer trois heures, hein, parce que sur l'histoire de l'eugénisme et les
sur l'eugénisme, je ne suis pas sûr d'être tout à fait d'accord avec
ça. Non, mais
ce
c'est ça, parce
dire.
Que c'est. Mais là, on voit bien à quel point, peut-être pour avoir un mot de la fin, ces questions génétiques sont des questions qui parcourent nos questions sociales, historiques, profondément. Qu'est-ce que ça veut dire faire des enfants qu'est-ce que ça veut dire avoir une situation de handicap? Quelle place on fait pour la différence, pour le soin, etc. C'est encore un nouveau champ qu'on pourrait ouvrir. Et donc, voilà, pour moi, une raison supplémentaire de penser ces questions génétiques au niveau collectif, au moins autant, si ce n'est bien plus, qu'au niveau individuel.
Eh bien, il me reste à vous remercier tous les trois pour cette... je crois que ça a été un débat très, très riche en information. Et je remercie donc les internautes qui nous ont suivis en direct et d'autres qui vont nous suivre, j'espère qu'ils vont nous suivre le débat un peu plus tard. Et bien sûr, je remercie aussi les personnes qui sont ici présentes dans cette salle pour écouter le débat, et nous aurons l'occasion dans quelques minutes de vous laisser la parole. À bientôt.